Ismaël au Cachin oriental. J'ai réussi totalement cette
histoire. Moi, j'ai essayé de vous remercier au personnage. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, peut-être que vous devez précisément trouver une solution par rapport à ça.
Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à l'écoute de Parole aux auditeurs, une émission de Radio Capi 100% interactive qui vous permet de prendre la parole aussi de donner votre point de vue sur les préoccupations quotidiennes et les faits marquant l'actualité en RDC. Le Parlement a convoqué une session extraordinaire qui s'est ouverte le vendredi dernier. Les députés nationaux et sénateurs ont repris le chemin du palais de peuple pour examiner et adopter des lois considérées importantes. Parmi ces matières, nous pouvons citer le projet de loi du budget 2010 que le chef de l'État a renvoyé au Parlement pour réélecture ou encore le projet de loi organique sur la CENI. Question pour lancer ce débat de parole aux auditeurs. Quelles sont vos attentes par rapport à cette session? Parole aux auditeurs a invité Maître Jean Bouillou, il est député national, aussi membre de la majorité parlementaire. Ce sujet vous intéresse? Pour participer à l'émission, contactez-nous au 081-99-77-800 pour émettre vos avis, donner vos propositions et poser vos questions. À la réalisation de Parole aux auditeurs, Pierre Lamégi, Titine Toutou, Augustin Ngala, Nikon Ngaka, la mise en onde est assurée par Iman Zambou.
Réagissez en direct à l'actualité dans Parole aux auditeurs. Composez le 081-99-77-800 par internet en écrivant à pa@radiocati.net.
Bonjour, honorable Jean Bouillou. Honorable ?
Oui, je vous suis.
Oui, bonjour, honorable Jean Bouillou.
Bonjour.
En fait, vous êtes député national et vous faites partie, vous êtes membre de la majorité au niveau du Parlement. Il s'est ouvert la semaine dernière la session extraordinaire au Parlement. Et pouvez-vous nous dire quelles sont les matières qui sont prévues au calendrier de cette session?
Bon, en principe, lorsque la session extraordinaire a été convoquée, il était prévu un certain nombre de matières qui n'étaient pas, disons, terminé dans la session passée. Parce que la session de septembre à décembre, elle est essentiellement budgétaire, tandis que c'est celle de mars à juin qui est une session, disons, des matières générales. Malheureusement, dans toutes les sessions, on arrive toujours à ajouter des matières tellement il y a des lois à prendre encore.
Oui, et un aperçu sur les matières qui sont prévues au cours de ces sessions.
Oui, au cours de cette session, il était donc prévu les lois sur la magistrature, qui était nécessairement les plus importantes. Malheureusement, il s'est ajouté le fait qu'on a renvoyé le budget, et le budget devient presque la matière essentielle pour cette session, parce qu'il a été renvoyé en deuxième lecture, et c'est même l'objet d'ailleurs de la plénière d'aujourd'hui. Et puis il y a les lois sur la forêt, il faut la mise en place de la commission qui doit s'occuper des forêts, il y a les lois également sur les modifications à certaines lois existantes, notamment en matière commerciale et de société. Il y a à peu près 10 lois qui devaient être examinées en cette session-ci et qui vont faire l'objet d'ajouts parce qu'il y aura la matière budgétaire et puis la matière de certaines lois financières à modifier.
Oui, la session extraordinaire s'étend sur un mois, donc 30 jours. Est-ce que ce sera suffisant pour adopter toutes ces matières?
Il faut dire que ça va être très dur. À mon avis, je crois que il n'est pas exclu que nous puissions reporter certaines autres matières à la session du mois de mars.
Nous allons prendre une série d'auditeurs tout juste après ceci.
Parole aux auditeurs.
Nous avons Wabello qui nous appelle de Matadi. Bonjour Wabello.
Bonjour Madame Marie-Chantal.
Oui,
et bonjour à tous les auditeurs de Radio Capi.
Dites-nous un peu Wabello, quelles sont vos attentes par rapport à cette session extraordinaire?
Vous savez que nous avons du mal à comprendre finalement la politique du pays. Et nous avons élu des députés qui devaient parler au nom du peuple, mais ils arrivent à Kinshasa qui règle plus des problèmes qui concernent leur corporation que les problèmes qui concernent le peuple. Et qu'est-ce qui se passe le plus souvent? Une assemblée nationale qui subit ou qui suit un mot d'ordre donné, alors que le mot d'ordre devait venir de la population. Mais eux sont en train de suivre un mot d'ordre d'une personne donnée, c'est-à-dire d'un chef d'une majorité. Bon, il n'est pas normal parce que l'aveu de la population ou alors le vouloir de la population n'est plus respecté parce que on respecte plus les vœux d'une personne. C'est bien qu'il soit allé en question extraordinaire, mais ce qui nous fait mal, madame, il peut bien créer beaucoup de questions extraordinaires, mais c'est pour en faire quoi? Parce que ce sont les politiciens qui vont trouver leur compte. La population n'a rien. Ces députés ne se rendent pas compte qu'ils sont des élus du peuple, que c'est le peuple, ils sont l'émanation du peuple. Et les pouvoirs qu'ils ont, c'est les pouvoirs du peuple. Ils sont arrivés là où ils sont et ils ont bloqué tout, ils se détournent du peuple, ils se disent, donc ils ont contourné, ils ont pris les pouvoirs du peuple entre leurs mains. Et le peuple n'a plus son compte. C'est bien de faire une question extraordinaire, mais est-ce que ces matières, même si elles sont adoptées, l'exécutif, est-ce qu'il va suivre? Parce que finalement, ces députés font toujours les yeux tout vers les ministres, parce qu'ils sont les éternels à sauter. Ils ont toujours besoin d'argent des ministres. Vous voyez que donc les ministres sont en position de force et les députés ne savent pratiquement pas trouver les comptes de la population. Ils ont plus besoin d'argent auprès des ministres que les autres. C'est ça le problème, madame Marie Chantal. Donc la question, c'est extraordinaire, c'est bien. Nous sommes contents que, parce qu'ils font semblant de travailler, mais à la réalisation, que ce soit du côté de l'exécutif, que ce soit du côté de l'Assemblée, ça pose problème. C'est ça, madame.
Merci beaucoup, Abello, pour votre apport à cette émission. Vous pensez que vous ne vous reconnaissez pas dans les députés que vous avez élus, donc vous estimez qu'ils sont en train d'essayer d'appliquer, de ne pas faire ce que la population attend d'eux, et aussi vous trouvez que l'exécutif, malgré l'adoption et même la promulgation de ces lois, il y a encore un problème dans l'exécution de ces lois. Merci beaucoup d'avoir participé. Nous allons au centre du pays où se trouve Jean-Pierre. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour, ma madame.
S'il vous plaît, Jean-Pierre, est-ce que vous pouvez vous éloigner de votre poste récepteur?
Oui.
Oui, et suivre l'émission à partir de votre téléphone portable.
Monsieur le maître de la radio.
Oui, Jean-Pierre, on vous écoute. Vous nous appelez à partir de Kalanga.
Oui, madame, je suis vraiment à l'écoute de votre émission. Concernant la rentrée parlementaire de nos députés, bon, nous sommes convaincus qu'on est déjà au moins dans l'année 2010, dans quelques jours et quelques mois après 45 ans de nos venus ici. Mais depuis qu'on est ici à Kananga, ici, je vois toujours les choses n'avant de plus. Je sais très bien que nos députés ici, ce sont nos venus qui nous représentent, nous, les frères, surtout moi qui suis ici à Kananga. Je vois surtout pire le commerce et autres choses. Vraiment, les choses n'avancent plus très bien. Il fallait que nos députés, dès qu'ils vont rentrer, il faut qu'ils voient aussi sur ces questions-là. Il faut que la loi soit adoptée et donner au Toki la solution à toutes les personnes qui se capables, que nous souffrons tellement, il n'y a pas moyen.
Et Jean-Pierre, est-ce que spécifiquement, vous pouvez me donner des points sur lesquels vous attendez que cela soit débattu au cours de cette session extraordinaire, spécifiquement?
Ok, le point à qui je peux donner premièrement, il faut qu'on voit vraiment sur l'électricité dans la ville de Kananga. L'eau, ici à Kananga, c'est toujours défini comme étant un village. Troisième point, même le transport est toujours difficile. Vous verrez que le temps qui est à Kananga, soit descend parce que au niveau de Mekate, ce sont des villes qui sont
Donc, si on comprend bien, Jean-Pierre, la ligne n'est pas assez bonne. Hein. On va essayer peut-être de vous recontacter plus tard. Mais en gros, vous pensez qu'il faudrait améliorer un peu le social. Hein. C'est que vous êtes en train de nous expliquer. Vous dites aussi que vous pensez que jusqu'à présent, vous ne voyez pas vraiment comment les députés sont en train de travailler. Comme l'a dit Wabello, les électeurs ne se reconnaissent pas dans les députés qu'ils ont élus. Honorable Jean Bouille, vous avez suivi nos auditeurs. Une réaction?
Oui, je crois qu'il y a deux ou trois choses qu'il faut préciser. Hein.
Mm-hmm.
D'abord, la session extraordinaire est convoquée dans le souci de terminer les matières qui n'ont pas été terminées. Donc, d'une certaine manière, c'est dans l'intérêt du peuple, parce qu'il faut que des lois soient prêtes, et la session extraordinaire va contribuer à ce que ces lois soient votées.
Mm-hmm.
Ensuite, il n'y a pas, disons, d'intérêt personnel supplémentaire chez le député, étant donné que le député lui-même reçoit toujours le même salaire mensuellement. Alors, en ce qui concerne les gens qui sont un peu sceptiques et désabusés, comme si leur député ne faisait pas ce qu'ils doivent faire, je crois qu'il y a là aussi un problème de compréhension de la mission du député. Sa mission, c'est de faire les lois et de contrôler l'action du gouvernement. Et c'est pour cette raison d'ailleurs, pour que son contrôle soit efficace, on a dit qu'il fallait donner aux députés le même salaire que le ministre. Parce qu'un auditeur était en train de dire que les députés sont souvent à la merci des ministres. Non, aujourd'hui ce n'est pas la même chose.
Est-ce que vraiment, honorable, est-ce que c'est une question de salaire ou bien une question de conviction?
Allô?
Parce que, est-ce qu'on voudrait savoir est-ce que c'est une question de salaire ou une question de conviction? Est-ce que, parce que, il y a un auditeur qui a dit qu'il ne se reconnaissent pas, donc ils ne voient pas le travail que fait le député dans son action, bien sûr, de légiférer, aussi de contrôler le gouvernement.
C'est les deux missions, légiférer et contrôler le gouvernement. Et la session spéciale est convoquée, c'est essentiellement dans le but de légiférer, c'est-à-dire finaliser certaines lois qui n'ont pas été, qui n'ont pas pu être vidées dans les sessions précédentes. Parce que la session du 15 septembre au 15 décembre, c'est une session budgétaire. On examine en priorité le budget. Malheureusement, toujours des lois qui ne sont pas encore voté et qui demande qu'on les examine en même temps. Ce qui fait que, même si vous êtes en session budgétaire, vous êtes obligé d'une certaine façon d'examiner aussi d'autres lois qui sont restées en suspens.
Mm-hmm.
Tandis que la session de 15 mars au 15 juin est une session de loi ordinaire, mais même là aussi, le nombre de lois est tel qu'au bout d'une session, on n'arrive pas à voter toutes les lois. C'est pour ça qu'on prévoit de temps à autre des sessions extraordinaires.
Oui, la session extraordinaire, effectivement, mais Wabello qui a posé son problème, il dit que dans vos fonctions que vous assumez, notamment que vous légiférez et vous contrôlez le gouvernement, mais dans ces deux actions, il ne se retrouve pas. C'est un peu ce qu'il était en train d'expliquer.
Oui, c'est ça aussi ma réponse. Je dis, il y a une confusion dans la mission du Parlement et la mission du gouvernement. C'est au gouvernement qu'il faut attendre qu'on arrange les routes, qu'on fasse les ponts, qu'on paye les gens, qu'on fasse ça. C'est la mission du gouvernement. Le Parlement a comme mission de légiférer, mais aussi de contrôler en cas de mauvaise gestion ou en cas de dénonciation. Donc, malheureusement, beaucoup de gens attendent que les députés, lorsqu'ils rentrent en congé, qu'ils payent à boire, qu'ils arrangent les ponts, qu'ils mettent l'électricité, qu'ils mettent l'eau. Non, ça, ce n'est pas la mission des députés. Malheureusement, il y a aussi des députés démagogues qui procèdent à ce genre d'actes, alors qu'ils font croire à toute la population que non, si ce n'est pas fait, c'est parce que notre député n'a rien fait. C'est pas du tout ça. Ensuite, les députés nationaux ont un mandat national. On ne va pas là pour parler pour sa circonscription, on va au niveau national pour demander le bien du peuple congolais tout entier.
Oui, c'est aussi dans notre auditeur, avant qu'on prenne une autre série d'auditeurs, il s'est posé des questions dans vos fonctions de pouvoir contrôler le gouvernement. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à exécuter les lois que vous adoptez?
Non, je crois que le gouvernement est placé aussi devant une contrainte budgétaire. J'ai toujours dit ceci, que les besoins annuels de la République démocratique du Congo sont plus ou moins de 6 milliards. Mais notre contribution au budget, la contribution de chaque citoyen au budget, ne dépasse pas 2 milliards de dollars. Nous avons donc toujours un déficit au moins de 60.
La ligne s'est interrompue. On va essayer de pouvoir joindre notre invité.
parole aux auditeurs. Pour intervenir en direct ou envoyer un SMS, composez le 081 99 77 800 par internet ca@radiookapi.net.
Le temps de pouvoir recontacter notre invité, Jean Bouillou, qui est député national, membre de la majorité parlementaire. Nous prenons Arsène, qui vous appelle de Kikwit. Bonjour Arsène.
Bonjour madame.
Arsène, on vous écoute.
Ok. Moi, je simple de suivre aussi mes prédécesseurs. Je ne rentrerai pas sur ce qu'ils ont déjà dit. Mais je vais dire ceci. Nous avons élu nos députés. Ils ont une mission à remplir. C'est voter des lois. Mais ceux qui sont là, ils ont voté des lois. Est-ce que toutes ces lois qu'ils ont votées ont été appliquées ou pas? Quelle est leur mission encore? La mission est de surveiller et contrôler le gouvernement. Le gouvernement jusque-là n'a rien fait. Quels sont les députés? Ils ne font rien. Cette session, c'est juste pour nous endormir encore pour une fois. Nous sommes en train de nous endormir. Au lieu maintenant, on est en train d'avancer vers les élections. Nos députés, ils sont en train de s'amuser et voter des lois pour nous faire du faire. Qu'on aille vers les élections. Dernièrement, j'ai été avec les agents de la CNI. On était ici en train de discuter sur la radio. Ils disaient, le Parlement est en retard. Il y a des lois à voter là-bas. Pourtant, aujourd'hui, la chose la plus importante, c'est les élections. Ils terminent d'abord les lois électorales, et après, ils vont faire leur discussion là. Moi, en tout cas, je n'ai plus confiance en eux. Nous avons élu, mais ils nous ont pas rendu ce que nous attendions d'eux. Ils ont voté des lois, mais qu'est-ce qu'ils ont fait avec ces lois-là? Est-ce qu'ils ont contrôlé le gouvernement pour l'application de ces lois? En tout cas, Madame Chantal, c'est ce que j'avais à dire. Tu nous endormes pas, qu'on aille aux élections.
Merci beaucoup, Arsène, pour votre participation. Vous aussi, vous avez réalisé que vous ne vous retrouvez pas à travers vos députés, les députés que vous avez élus, et vous pensez qu'il faudrait directement aller aux élections pour pouvoir renouveler. Nous avons Alimassi de Kailo. Bonjour, Alimassi.
Bonjour, demoiselle.
Oui, Kailo, c'est dans le Maniema. On vous écoute.
Ok, moi ce que je répète beaucoup avec nos députés ici, ce sont des malfaiteurs, on peut dire carrément.
Ça n'engage que vous, hein?
Oui, parce que ça panne ici, ils disaient n'importe quoi, n'importe comment, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mais aujourd'hui, ils écrivent toute responsabilité, ils votent des lois qui n'est pas bon, donc on regrette beaucoup avec les députés. Ce sont eux qui tuent le pays.
Merci beaucoup, Alimassi. Vous avez donné votre point de vue hein, par rapport à la session extraordinaire qui s'est ouverte. Vous pensez que les députés ne jouent pas correctement leur rôle. Monsieur Jean Bouillou, vous avez suivi nos auditeurs? Honorable Jean Bouillou, vous avez suivi la série d'auditeurs?
Allô?
Nous l'avons... Et honorable, vous êtes en ligne?
Oui, je suis en ligne.
Oui, est-ce que vous avez suivi nos auditeurs, leurs points de vue par rapport à la question extraordinaire et ce qu'ils pensent des députés?
Oui, c'est toujours la question des attentes des auditeurs ou de la population vis-à-vis de la mission des députés. Mmh. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, parfois les attentes sont au-delà de ce qu'ils doivent attendre de leurs députés, notamment lorsqu'on dit oui, il est bon que la session se termine et qu'on élise, qu'on rentre aux élections. Même là, on va élire de nouveaux députés qui vont être placés devant la même réalité. Mais il est important que la population comprenne quelle est la mission réelle du député. En ce moment, il n'attendra pas de lui d'autres résultats. Sa mission de contribuer à légiférer. On ne légifère pas seulement pour l'année, là, ou pour une année. On légifère pour l'avenir. Et la plupart de ces lois, dès qu'elles sont adoptées, elles sont publiées au journal officiel, elles demeurent pour l'avenir. Parfois, on n'en voit plus l'effectivité sur le terrain parce qu'on n'est pas dans le domaine de cette loi-là. Mais, là, et si c'est les lois, on en a voté une bonne vingtaine, trentaine, mais ce n'est pas seulement pour résoudre des problèmes immédiats. C'est pour assurer une sécurité juridique pour l'avenir. Et c'est ça qu'on doit comprendre.
Encore une fois, la question sur le contrôle de l'exécutif a été posée concernant l'application de ces lois. Ils trouvent que vous n'êtes pas assez rigoureux.
Bon, probablement, oui, parce qu'on a, disons, dans les deux à trois années de contrôle, il n'y a pas eu beaucoup de sanctions directes sur les ministres. N'empêche que le premier ministre a été interpellé. Mais... la mission est disons, la mission du Parlement est celle-là. Il a exercé le contrôle, quoique il n'y ait pas eu de sanctions éclatantes.
Oui, vous restez en ligne, Monsieur Jean Bouyou, le temps de prendre Emina Kiambandaka et Joe Akinshasa.
Parole aux auditeurs.
Bonjour, Emina.
Oui, bonjour, madame.
Oui, on vous écoute, Emina.
Oui, madame, en tout cas, moi, la session de l'exercice extraordinaire des différents chambres du Parlement est très importante pour moi. Comme prévoit dans son rendez-vous de Koumoué, c'est-à-dire la Constitution. Vous savez que, madame, mais les parlementaires portent leurs droits et leurs obligations. Alors, à mon humble avis, je m'intéresse ici aux obligations des parlementaires. Et il est représentant du peuple, il doit séjourner en vacances parlementaires au moins une fois au mois, par mois, dans son fief électoral. Mais je ne comprends pas, ici même dans notre province, nos parlementaires, ils ne parlent pas avec la population pendant les vacances parlementaires, ils sont allés partout.
Emina, s'il vous plaît, Emina, nous sommes en train de parler, en fait, la question, c'est quelles sont vos attentes par rapport à cette session extraordinaire. Nous essayons un peu de nous focaliser sur cette session extraordinaire qui vient de s'ouvrir et non parler vraiment du député, du parlementaire. Oui, si on peut aller directement au but, parce qu'il y a d'autres auditeurs qui attendent.
Les attentes sur la session extraordinaire du Parlement, là, nous attendons d'abord qu'on puisse d'abord améliorer les conditions de vie salariale des populations. Dans le sens que quand on veut porter une paix, les budgets c'est pour la République. Et puis, nous attendons seulement qu'on puisse, il y a pour qu'on ne puisse pas le faire vraiment écart avec les salaires des gens, madame. Donc, ça, c'est mes attentes sur le plan budgétaire.
Oui, c'est ça votre attente. Merci beaucoup, Emina, d'avoir participé et d'avoir émis votre avis concernant cette session extraordinaire. Vous pensez qu'il faudrait qu'on mette un accent sur l'amélioration des conditions salariales des fonctionnaires de l'État. Nous revenons à Kinshasa, on se trouve Joe. Bonjour, Joe.
Bonjour.
On vous écoute, Joe.
Oui, madame, votre invité parle pour sa défense, bien sûr, parce qu'il est de la majorité. Souvenez-vous, au Parlement, sur le contrat chinois, la majorité avait applaudi, ça tout le monde le sait, on voyait ça sur la télévision nationale. Et même je me rappelle une blague du président Caméré, un homme que j'apprécie beaucoup et beaucoup, qui avait même fait une blague pour dire avec 9 milliards, est-ce que moi je peux chercher à discuter? Oui, madame, ce qui veut démontrer que les députés ne font absolument rien qui puisse aller dans le sens des attentes de la population. Je veux vous rappeler encore quelque chose. Quand ce contrat a été concocté, et aujourd'hui, où en sommes-nous, la vérité a fini par triompher. La loi sur la magistrature, la loi électorale, toujours au point mort. Ben, on ne sait pas pourquoi. C'est repousser. Je comprends pas. Hein.
Oui, et Joe, et quelles sont vos attentes pour cette session extraordinaire qui vient de s'ouvrir?
Les attentes. On attend les attentes, justement, que les députés fassent leur travail comme il se doit. Et pour votre invité qui parle des attentes de la population, qui ne sait pas faire la part entre le travail des députés et ce que la population attend, moi je dirais à votre invité que si cette population n'existait pas, il ne serait pas député. Donc que ce soit le Parlement, le Parlement doit faire pression sur le gouvernement pour que les gens puissent avoir leur attente. Merci, madame.
Merci beaucoup, Joe, pour votre avis que vous avez émis concernant cette question, surtout en rapport avec cette session extraordinaire qui vient de s'ouvrir. Nous avons Polybé qui est à Kindu. Bonjour, Polybé.
Oui, bonjour, madame.
Oui, Polybé, quelles sont vos attentes par rapport à cette session extraordinaire?
En tout cas, cette session extraordinaire n'aura rien de concret. Quand on sait que l'ordinaire n'a rien résolu. C'est un secret des polichinelles. Ils veulent, avec la complicité du gouvernement, apurer les restes de ceux qui pouvaient par hasard rester dans les caisses de l'État avant l'application du budget 2010. Ce que le président pouvait faire, madame, c'est dissoudre le Parlement et non renvoyer encore le budget où rien ne sera retouché. 70% des parlementaires, si mes calculs sont bons, sont des suppléants. Ils ne savent pas pourquoi ils sont députés. Et par conséquent, rien ne va marcher. Prochainement, avant d'élire un député, ça c'est un conseil, je conseillerais aux pauvres Congolais d'étudier d'abord les qualités morales et sociales et même intellectuelles des suppléants. Maintenant, je parle de chez moi Maniema. Chez moi Maniema, tous les députés sont à Kinshasa. Ils n'ont rien à présenter à la plénière parce qu'ils n'ont pas consulté la base. Mais, chaque règle ne manque jamais d'exception. Il faut reconnaître les bravos de l'honorable Raphaël Ngoum de Chabane qui consulte toujours sa base. Voilà ma contribution.
Oui, merci beaucoup, Polybé, pour votre contribution. Vous pensez que de cette session extraordinaire, rien de concret pourra en sortir. Nous prenons John, il nous appelle Guy Siro dans la province orientale. Bonjour, John Peter.
Oui, bonjour, madame Naïcha Talon.
Oui, on vous écoute.
Ok, je voudrais commencer par vous dire que depuis les élections de 2006 jusqu'à aujourd'hui, la situation budgétaire de la RDC va de mal en pis. Les Congolais ordinaires n'ont pas grand-chose à attendre du renvoi de ces députés au Parlement pour examiner, car les élus du peuple sont égoïstes et tapent des mouvements exorbitants au détriment des commerces de portée. Et c'est ça qui fait montre même du manque de justice distributive et s'attise de la colère des supérieurs primaires. Des deux, bien plus même, si ce budget était révisé à la hausse, une bonne partie ne sera que détournée. Laissez-moi vous révéler quelque chose de Marie Fatalou. Il fallait que tous les enseignants, les 30 000, et tous les enseignants aujourd'hui, c'est celui du budget 2006 qui était détourné et qui n'a été appliqué qu'en janvier 2007. Depuis lors, aucune augmentation, ni même une uniformisation des salaires. En définitive, un bon budget place les sociales au centre de ses actions et applique une justice distributive. Les 30 000 qu'on donne aux enseignants ne sont même pas si sûrs pour l'argent des poches d'un ministre qui quitte l'IMETE pour aller en discussion à Kinkole ou qui quitte la commune de Nakisa Kisangani pour aller au pique-nique à la cité Wakenya. Voilà un peu ma contribution, Marie Chatham.
Merci beaucoup pour votre contribution.
Parole aux auditeurs. Pour intervenir en direct ou envoyer un SMS, composez le 081-99-77-800 par internet pa@radiookapi.net.
Vous suivez Radio Capi dans son émission Parole aux auditeurs, votre émission 100% interactive s'axe sur l'ouverture le vendredi dernier d'une session extraordinaire au Parlement. Les députés nationaux et sénateurs ont repris les chemins du Palais du Peuple pour examiner et adopter des lois considérées importantes. Parmi ces matières, nous pouvons citer le projet de loi du budget 2010 que le chef de l'État a renvoyé pour réélecture au Parlement ou encore le projet de loi organique sur la CENI. Question pour lancer le débat, quelles sont vos attentes par rapport à ces sessions? Pour participer, vous pouvez nous appeler au 081-99-77-800 ou nous écrire à l'adresse pa@radiookapi.net. Et pour parler de ce sujet, nous avons invité M. Jean Bouyou, il est député national, membre de la majorité parlementaire. M. Jean Bouyou, vous avez suivi encore nos auditeurs, vraiment l'une des matières qui sera examinée au cours de cette session extraordinaire, c'est la loi budgétaire pour l'année 2010. Est-ce que vous pensez que ces réajustements que compte faire le Parlement pourra permettre l'amélioration des conditions sociales?
Oui, voilà ce qui s'est passé exactement concernant le budget. Le budget a été proposé par le gouvernement, déposé par le gouvernement au Parlement, et il indiquait un montant donné de recettes comme étant le maximum. Le Parlement, à travers l'Assemblée nationale et le Sénat, a examiné
et a trouvé que ces recettes étaient insuffisantes et a dégagé des recettes qu'on appelle additionnelles. Le Parlement, c'est-à-dire les deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat, ont affecté une partie de ces recettes aux dépenses de leurs chambres respectives. Et une autre partie à certains projets du gouvernement qui n'avaient pas de financement. Alors, ils ont renvoyé le budget auprès du chef de l'État, comme le dit la loi, pour qu'ils puissent le promulguer. Mais le chef de l'État, après avoir examiné à son niveau ce budget, a trouvé que c'était une bonne chose que le Parlement avait réussi à dégager des recettes additionnelles, mais que l'affectation n'était pas appropriée. Il a donc demandé que les fonds affectés au Parlement, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale et au Sénat, soient réduits à la baisse pour être affectés à certains projets sociaux, notamment à l'enseignement. Voilà l'objet de la session, c'est ce que nous allons faire.
Oui.
Alors si les gens croient que, ou certains n'ont pas bien suivi, et croient que c'est une mauvaise chose, qu'on puisse revoir qu'on affecte un peu plus de recettes pour le compte de l'enseignement, je crois que non. Là, ils ont une mauvaise compréhension du problème. C'est si le budget de cette session et qu'ils réexaminent le budget dans le sens donné par le chef de l'État, parce que ça va plus profiter aux fonctionnaires et aux enseignants, notamment aux certaines questions sociales, que tel qu'il avait été soumis au chef de l'État. Voilà l'objet un peu de ce budget.
Oui, mais en fait, souvent, notre budget, c'est en grande partie, est réservé aux rémunérations, surtout oui. des institutions. Est-ce que cette fois-ci, avec le réajustement, on pourra tenir compte vraiment des besoins de base, par exemple l'agriculture, parce que souvent c'est moins de 10%, l'agriculture, même la santé, c'est oui. moins de 10%. Est-ce que les réajustements vont tenir compte de cela?
Non, la révision actuelle ne va pas comprendre tous les postes budgétaires déjà établis. Il va concerner seulement le surplus de recettes dégagées par l'Assemblée nationale et le Sénat, et il va réaffecter ce surplus de recettes-là. Sinon, les autres postes budgétaires vont rester en l'état. Donc, ils ne vont pas être changés. Je disais que la difficulté, justement, provient du fait que l'argent que nous gagnons comme État, comme gouvernement, c'est à peu près 2 à 3 milliards par an, alors que les besoins fixes et permanents sont à 6 milliards de dollars par an. Et c'est ça qui fait qu'il y a toujours au moins 50 ou 60% de déficit chaque année que nous n'arrivons pas encore à combler en tant qu'État, en tant que nation, et cela depuis plusieurs années.
Donc
là, les difficultés qui sont décrites aujourd'hui vont prendre du temps pour que l'État arrive à un niveau de relèvement pour acquérir plus de recettes. Au lieu d'être à 3-4 milliards, l'État pourra peut-être aller à 10-15-20 milliards, un peu comme nos voisins comme l'Angola avec le pétrole, ils arrivent à 40 milliards de budget. Bon, ça viendra progressivement.
Donc, au cours de cette année budgétaire, il n'y aura pas une amélioration quelconque au vécu du quotidien congolais, à vous entendre.
Non, à m'entendre, je veux dire que, d'abord, le budget 2009 a connu un problème sérieux. C'est un peu la crise qui est survenue dans le secteur minier, qui était le secteur principal pour le relèvement des recettes. Avec la récession minière et la crise internationale, ce qui fait que, bon, la plupart des recettes qui étaient prévues dans ce cadre-là ne sont plus revenues. Alors, 2010 vient justement dans un contexte où on n'est pas encore sorti de ce marasme-là. Néanmoins, le gouvernement a estimé, avec d'autres, qu'on pouvait faire un effort pour générer des recettes qui permettront de couvrir les charges, mais dans une proportion assez proche de 2009. Ce qui voudra dire que ça ne sera pas très différent de 2009 du point de vue des rémunérations. Mais ce qui est original dans 2010, c'est qu'une bonne partie du budget, presque la moitié, a été consacrée aux investissements, c'est-à-dire ce qu'on appelle communément les 5 chantiers. Mais on ne fera pas que se nourrir de ce qu'il y a dans la caisse, on prendra aussi ce qu'il y a dans la caisse pour investir pour l'avenir. Routes, écoles, hôpitaux, et ainsi de suite. Voilà plus ou moins la réponse sur ce budget.
Bon, nous avons Destiné qui nous appelle de Kananga. Bonjour Destiné.
Bonjour, maman Marie Chantal.
Oui, Destiné, quelles sont vos attentes pour la session extraordinaire qui vient de s'ouvrir?
Moi, ça me fait m'étonner, parce que lorsque le budget est sorti de l'Assemblée nationale, on nous a dit que c'était pour la première fois que nous avions un cadrage macroéconomique réaliste. Donc, nos députés n'ont acheté notre budget par rapport social, par rapport au fonctionnement, et que ce travail aurait pu être fait par eux. Et c'est maintenant que le chef de l'État vient de renvoyer le budget pour un examen profond. C'est ce qui suppose que les députés sont là justement pour leurs intérêts privés. Donc c'est un travail qui aurait pu être fait par les députés. Et le chef de l'État lui-même avait constaté que 2010, c'est une année du social. Mais les députés ont oublié cela. Et pourtant, ce sont eux qui représentent les volontés populaires, qui connaissent les aspirations profondes des populations. Donc, lorsqu'ils arrivent à donner, à avoir un cadrage macroéconomique qui est réaliste, autrefois, qui a été dit autrefois réaliste, c'est ce que j'attends, que Maître Chamboulou nous dit. Pourquoi, lorsqu'il était passé cette fois-là à l'émission Dialogue à Progrès, il avait dit que c'était un cadrage macroéconomique qui était réaliste. Il nous dit ça.
Merci beaucoup, Destiné. L'honorable Jean Bouillou a suivi et pourra répondre à votre préoccupation. Nous prenons d'abord Ferdinand Marfolo, il est de la société civile. Bonjour, Ferdinand.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Oui, on vous écoute en rapport avec les attentes. Quelles sont vos attentes?
Nous, la société civile, ça nous étonne. Nous sommes en train de voir chaque jour la situation sociale de la population. Et nous étions heureux d'écouter, de suivre le discours du président de la République qui a articulé, qui a mis un accent particulier sur le social de la population. Aujourd'hui, le social de la population ne change pas. Nous avons une lecture tout à fait qui n'est pas aisée de ce que la population est en train de vivre. Nous avons pensé que le budget 2010 aurait pu mettre l'accent sur l'amélioration du social de la population. Ça fait une bonne chose que le président de la République a annoncé dans son discours l'amélioration du social de la population, qu'il ait renvoyé le même budget au Parlement. Parce que nous pensons que là, la population ne comprend absolument rien. Et quand on nous dit que dans le budget 2010, et après avoir eu la maîtrise macroéconomique, les cadrages économiques, après avoir vu des recettes par ici, par là, pour l'État, et que nos élites se permettent d'arranger, de préparer leurs propres salaires, c'est comme si la population en train de se dire, ces gens veulent préparer 2011 à 2010. Ça, c'est la lecture populaire dans la masse. Donc, je pense que là, on doit faire un effort. On doit penser à la population. On ne doit pas passer à côté. Il y a un peu de distraction, nous pensons. Il y a des turbulences politiques, la divergence au niveau de l'espace politique, des états-majors et l'espace de la distraction. On parle de la tolérance zéro. Tolérance zéro, nous disons, la société civile. Et c'est pas une sorte de règlement des comptes au lieu de voir les véritables problèmes de la gouvernance économique, de la gouvernance politique, de la gouvernance sociale. Mais il y a également ce problème de la révocation de la retraite des fonctionnaires. Il y a le statut de Moody qui n'est pas encore réglé. Et maintenant, on vient d'ajouter ce problème du budget 2010. Mais le budget additionnel, est-ce que nous demandons à la société civile? Est-ce qu'on sera correct pour voir le problème réel de la population? Le problème de la santé de la population? Le problème scolaire de la population? Le problème des routes de fête agricoles, le problème de problèmes du marché de la population. Qu'est-ce qui va se passer réellement? Est-ce qu'ils ne vont plus arranger dans le sens? C'est vrai qu'il y a des investissements qu'il faut voir. Là, nous sommes d'accord, il faut investir. Mais il faut investir, il faut voir aussi le vécu quotidien de la population, la situation quotidienne de la population.
Merci beaucoup, Ferdinand, pour votre contribution. Vous pensez que ce budget ne reflète pas une certaine amélioration du social, surtout qu'il sera encore une fois réexaminé au niveau du Parlement. Merci beaucoup d'avoir participé à notre émission. Nous restons ici à Kinshasa, où se trouve M. Valentin Moubaki. Bonjour, M. Valentin Moubaki.
Bonjour, madame.
Oui, et quelles sont vos attentes par rapport à cette session extraordinaire?
En matière d'attente, je vous avoue, comme tous les autres auditeurs qui n'en font que pleurnicher, c'est depuis longtemps qu'au niveau de mon parti, nous nous posons la question de savoir si quelque chose de bon pour le pays peut sortir des animateurs actuels, résultat du processus électoral d'ici et de 2006. En voici la preuve. En voici la preuve, encore une fois. Vous savez, nous sommes un pays qui est, depuis 2006, dans une phase que nous appelons de réaménagement institutionnel. Nous avons eu des élections, donc des élections doivent intervenir à des fréquences bien précises. Et donc, au niveau de ceux qui gèrent le pays, le gouvernement, au niveau de ceux qui contrôlent l'action de ce gouvernement, il doit y avoir un calendrier du respect de ce réaménagement institutionnel. Et je vous cite par exemple la situation que nous redoutons tous d'avril 2010, avril prochain, date à laquelle ce pays doit se doter de 26 provinces. Posez la question à ce Parlement, parce que son rôle aussi c'est de légiférer, en plus du contrôle de l'exécutif dans son ensemble. Qu'est-ce qui a été prévu comme programmation législative depuis qu'ils sont là, pour qu'en avril 2010, nous ayons 26 provinces dans ce pays?
Oui, monsieur Valentin Boubaké, mais concernant cette session extraordinaire qui vient de s'ouvrir, qui n'aura que 30 jours, elle va se clôturer le 15 février, quelles sont vos attentes par rapport aux travaux qui sont déjà...
Je suis en train de vous dire, madame, session ordinaire ou extraordinaire, l'essentiel de préoccupation comme le pays se trouve ailleurs. Ce n'est pas dans les quelques 2 milliards ou 3 milliards de francs congolais récupérés à gauche à droite qui vont se transformer dans des voitures, dans des Pajero. Le problème de ce pays réside dans quelle est la vision que nous avons de ce pays. Nous avons une constitution qui dit par exemple que nous devons avoir 26 provinces en avril 2010. Et c'est depuis 2006 que c'est connu. Eh bien, ils vont vous dire, non, écoutez, nous devons réviser la constitution parce que ce n'est pas possible. Ça veut dire que leurs préoccupations ne se trouvent pas dans le pays. Leurs préoccupations sont ailleurs. Mais j'ai suivi mon ami Jean Boujou, mais il est en train de se poser la question chaque fois, de faire une gymnastique intellectuelle pour répondre aux questions embarrassantes qui lui sont posées.
Merci beaucoup.
Il ne peut pas poser, lui, ces questions au gouvernement. Son gouvernement.
Oui, merci beaucoup, monsieur Valentin Moubaké, d'avoir participé à notre émission Parole aux auditeurs.
Parole aux auditeurs.
Maître Jean Bouillou, vous avez suivi nos auditeurs. La réponse que vous pouvez leur accorder?
Oui, merci. D'abord, avant d'aborder le dernier chapitre énoncé par mon camarade Moubaké, je voudrais lever le voile sur la question très répétée des avantages que voudraient s'octroyer les députés. À l'origine, les députés, dans le budget 2009, ont reçu comme salaire 4 000 $ par personne, par mois. C'est le salaire exactement donné aussi aux ministres. Et sur ce salaire, il y a un prélèvement d'à peu près 1 300 $ pour rembourser le crédit véhicule. Parce que chaque député a également reçu un véhicule, mais il doit payer lui-même au moins de son salaire.
Ça ne concerne en rien la population, que vous ayez des véhicules ou pas.
Oui, mais écoutez, quand la population vote les gens d'arrière-pays et qu'ils atterrissent à Kinshasa sans maison, sans moyen de transport, je me demande quel type d'efficacité ils veulent donner à leurs députés. Moi, je ne condamne pas le fait que les dirigeants du Parlement, de l'Assemblée nationale, au moment où ils ont vu venir ce monde, qu'ils aient cherché à leur donner un salaire et à leur donner un véhicule qui paierait sur leur salaire, parce qu'ils voulaient les mettre en disposition d'élaborer des lois. Élaborer des lois, ce sont des travaux de réflexion. Ce sont des travaux qui demandent que vous puissiez avoir une maison, vous asseoir, la lumière et travailler. Sinon, ça ne sert à rien de voter des gens pour qu'ils aillent élaborer des lois. Autant les laisser à l'exécutif, comme dans certains régimes dictatoriaux. Mais si nous convenons que nous devons déléguer des gens pour aller élaborer des lois, nous devons convenir aussi de mettre un budget à leur disposition. C'est dans ce sens que ce salaire a été octroyé. Mais ce salaire-là, sur 2009, a été calculé au taux de 550 francs le dollar. Taux d'ailleurs qui a été payé jusqu'à ce jour. Lorsque les députés qui viennent de l'intérieur, qui n'ont pas eu de moyens avant, qui étaient enseignants, qui étaient agriculteurs, arrivent dans une ville aussi complexe que Kinshasa, où ils voient que l'argent qu'on leur a donné, théoriquement 4 000 $, c'est devenu 1 000 $, eh bien, je crois que c'est de leur droit aussi de réclamer, parce qu'ils doivent vivre, ils doivent se déplacer, ils doivent aller à leur palais du peuple, ils doivent rentrer chez eux. Donc, je ne crois pas qu'il y ait dans cette revendication des parlementaires que le taux soit revu à la hausse pour que leur salaire garde la même valeur. Je ne crois pas que cette revendication est injuste. Mais qu'à cela ne tienne, beaucoup de gens pensent que lorsque les députés ont majoré les avantages qui leur sont dus, c'est simplement parce qu'ils voulaient gagner plus que ce qu'ils doivent gagner. Non! La revendication des députés, c'est de rattraper la valeur de salaire qui a été fixée pour eux.
Et que dites-vous alors de ces fonctionnaires de l'État qui n'arrivent pas aussi à avoir son salaire au taux actuel, parce qu'eux aussi sont payés à un taux inférieur?
Oui, exactement. Leurs députés souffrent du même problème. Et c'est pour ça que, si vous voyez bien les quantités de salaire, même leurs budgets sont revus. Mais face aux dévaluations, eh bien, même les révisions pour 2010 ne seront pas très ressenties. Donc, je ne voudrais pas qu'on pense qu'il y a des gens qui s'octroient des avantages pour eux-mêmes au détriment de ceux qui les ont élus. Il faut plutôt qu'on apprenne à penser que lorsqu'on confie des missions à des gens et que le gouvernement tout entier du pays, c'est-à-dire les institutions, s'accordent à leur donner un salaire qui répond à leur dignité, que cela n'est pas contradictoire avec leur mission de répondre à ce pourquoi ils ont été élus.
Oui.
Maintenant, la question du salaire généralement au Congo est liée, comme je vous l'ai dit, au revenu annuel du pays. Quel que soit celui qui va passer au devant, tant que nous n'arriverons pas à gagner ce que nous devons gagner pour payer tout le monde, tant que les besoins sont de 6 milliards $ et que nous ne gagnons que 2 ou 3, nous aurons les mêmes problèmes. Et c'est pour cette raison qu'il est demandé justement au gouvernement de faire des efforts pour améliorer le système tout entier, attirer les investisseurs, favoriser ceux qui ont le travail productif, ainsi de suite. Ce sont ces réformes-là justement qui demandent que des lois soient prises pour améliorer le niveau des recettes, le niveau de gestion, le niveau de gouvernance.
Mais pour Jean Bouillou, ce qu'il faudrait dire aussi, que pendant les discussions qu'il y a eu au Parlement, il faudrait dire que ce n'est pas un problème de pouvoir mobiliser les recettes, mais c'est surtout de pouvoir les dépenser. C'est là où il y avait une grande discussion. Donc, on arrive à mobiliser les recettes en RDC, mais c'est la chaîne de dépenses qui pose le problème. Nous allons ouvrir ça en ligne. Nous allons prendre une autre série d'auditeurs. Il y a Dépol qui nous appelle du Kinshasa. Dépol, on vous écoute.
Bonjour, Madame Marie Chantal, et bonjour à l'invité.
Bonjour.
Bon, pour aborder dans les mêmes temps que les postes mobiles, je trouve que tout ça, c'est une façon de passer le temps inutilement. Pourquoi je dis cela? J'ai suivi le député Moïse Niamorabou qui disait que même si on revoyait ce point-là, il n'y avait pas grand-chose. Il y a au moins 1,3% de ce qu'on va ajouter au social. Donc je trouve que c'est inutile. Même si on ajoutait les 1,3%, je trouve qu'il n'y a rien à gagner pour les peuples, vraiment. Ils doivent chercher à voter des lois qui sont en faveur du peuple, de la population qui les a votées. Mm-hmm. Donc c'est pas vraiment bien de s'atteler seulement à ce qui les concerne. Parce que j'entends les députés qui disent qu'ils doivent payer l'argent des voitures et confort. Les voitures, ce n'est pas qu'on leur a pas donné les voitures, ils ont les voitures. C'est pourquoi ils doivent payer les voitures. C'est pas qu'on doit leur donner encore les voitures gratuitement.
Merci beaucoup, Dépol, pour votre participation. Nous allons à l'est du pays, à Goma. Bonjour, Mouli Wavio.
Bonjour, madame la journaliste.
On vous écoute.
Oui, il y a un petit problème. J'ai entendu l'intervention de nos confrères là qui a dit que non, les députés ne jouent pas leur rôle. Moi, de ma part, je crois que je peux prédire que les députés jouent leur rôle parce que leur rôle est de participer aux élections des lois de l'Assemblée et aussi de contrôler le gouvernement. Mais chaque fois, j'ai vu que les députés ont souvent eu tendance de s'en se sentirait toujours désavantagé. Donc, ils ne savent pas que les électeurs les ont élus et qu'ils doivent travailler nécessairement pour leurs électeurs, mais aussi ils savent qu'ils doivent travailler pour leur compte propre. Donc, là, j'ai envie qu'ils puissent réviser la loi, donc, les budgets, parce que les budgets n'est pas seulement pour les députés, mais les budgets, c'est pour la population congolaise. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, monsieur Mouliwavio, maître Jean Bouillou, et encore des auditeurs qui posent des questions. Pouvez-vous répondre?
Oui, merci. La dernière question revient un peu à ce que monsieur Moubaki a dit tout à l'heure. Lui, évidemment, comme c'est l'opposition qui est en dehors des institutions, il voit tout en noir. Comme si, le moment où ils viendront aux institutions, ils ne seront pas obligés de gouverner avec le même budget, avec les mêmes institutions, c'est-à-dire l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Je ne cesse d'insister, madame, sur le fait que, quand nous parlons du social, nous voulons parler d'une partie du budget qui va être consacrée à des projets non productifs. Et donc, si nous devons consacrer des moyens à des projets qui ne produisent pas de l'argent, nous devons également trouver ces moyens de quelque part. Ensuite, le budget, ce n'est pas de l'argent que le gouvernement va rechercher quelque part. Le budget, c'est la contribution de chaque citoyen à l'effort collectif.
Mais par rapport à cela, oui. Maître Mbouyou, oui. Même dans les discussions que vous avez au Parlement, le problème, ce n'est pas seulement de mobiliser les recettes. On arrive à mobiliser les recettes, mais c'est la chaîne des dépenses qui pose des problèmes.
Non, ça c'est, disons, quelquefois on discute sur la mauvaise gestion par-ci, par-là, mais prenez la situation au niveau global. Le niveau global, lisez, le niveau d'un pays comme le nôtre, pour fonctionner normalement, payer les gens, avoir un peu d'argent des investissements, il faut 6 milliards de dollars. Mais le pays n'est jamais arrivé depuis plus de 40 ans à gagner plus de 2 à 3 milliards de dollars. Ça, c'est clair, depuis des années. Donc, quand vous allez sur ce postulat-là, la guerre se passe dans les quelques 2 milliards que nous gagnons annuellement. Mais le déficit, là, nous n'y touchons pas encore. Or, la vraie solution, c'est d'aller à couvrir ce déficit permanent.
Mais vous êtes parlementaire.
Nos concitoyens refusent d'entrer dans ce débat-là.
Donc, vous êtes parlementaire.
Nous sur les deux, là. Non, là, nous allons faire vraiment du conservatisme africain.
Oui, vous êtes parlementaire,
débat, non, Mayele, au point d'aller à autre chose que ces deux ou trois qu'on a. Aller au double, au triple. Oh. C'est ça que nous devons créer. Comme inventivité, comme raisonnement, comme intellectualisme, et pas nous loger toujours dans les petites recettes qu'on a. Non, mais tant qu'on ne quitte pas cela, eh bien, on ne saura pas encore résoudre le vrai problème.
Si vous permettez, comme vous êtes parlementaire et vous faites partie même de la majorité parlementaire qui peut changer les choses, mais pourquoi on ne le sent pas?
Oui, je veux dire, d'abord, quand vous dites vous faites partie de la majorité qui doit changer les choses, je dis, là encore, il y a une mauvaise compréhension de la mission du député. Le député, il vote le budget, il contrôle, mais il n'est pas le gestionnaire de ce budget. Donc, ne faites pas toujours cette confusion de rôle entre le rôle du gouvernement et le rôle du Parlement. C'est un deuxième élément. Deuxième élément, pourquoi ça ne change pas? Je crois qu'il faut aussi partir du fait que nous avons un pays assez grand, avec son histoire, avec son passé, et qu'on ne peut pas par un coup de guette magique changer les réalités économiques. Les réalités politiques, on peut les changer par des conférences, des réunions, des réconciliations. Mais les faits économiques sont des faits têtus. Ils demandent du temps, ils demandent de la méthodologie, ils demandent de la discipline. Et tout cela, quand vous le demandez au peuple congolais, on dit « Non, c'est trop dur, c'est juste là. » Mais c'est ça, il faut qu'on se soumette à une discipline qui nous permette d'aller vers justement une vision de construction que le président de la République a qualifiée justement de 5 chantiers. Il faut qu'on rétablisse les routes, il faut qu'on rebâtisse les hôpitaux, les écoles, les infrastructures, ainsi de suite. Et il n'y a que des gens qui ne comprennent pas, qui ne veulent pas comprendre, qui pensent qu'il n'y a pas de vision.
Mais
il y a une vision d'aller vers l'avenir, un avenir moderne.
Oui, mais
l'avenir moderne ne peut pas se réaliser sans un certain nombre d'infrastructures de base, sans l'école, sans l'hôpital, et sans des routes.
Oui,
il faut du temps pour que ça se réalise.
Oui, maître Mbouyou, vous allez conclure d'un moment à l'autre. Nous prenons un dernier auditeur. Il s'agit de Séraphin qui nous appelle d'Ouira. Séraphin, on vous écoute, en bref.
Oui, bon, merci madame d'avoir m'accordé la parole. Moi, je voudrais juste dire que je suis très différent, en bref. Ce que je voudrais dire sur cette convocation de session extraordinaire par le président de deux chambres, c'est tout d'abord suite au rejet à l'envoi du budget 2010 par le président de la République en vue de ses réexaminations avant sa promulgation.
Oui, vos attentes.
Le contact posé par les chefs de l'État doit interpeller les députés de l'AMP, de voter les différentes lois ou les différentes motions pour l'intérêt supérieur de la nation et non pour l'intérêt propre et ou l'intérêt de leur plateforme.
Mm-hmm.
Donc, ils doivent faire maintenant la preuve de leur valeur en fait. Donc, je crois que c'est ça ce que je voulais dire.
Merci beaucoup, Séraphin, Maître Mbouillou, en conclusion.
Oui, je suis tout à fait d'accord que les députés doivent discuter, légiférer dans le sens des intérêts de la population. Mais il est bon aussi que peu à la population comprenne, commence à comprendre les vrais enjeux du pays. Pas se plaindre, mais contribuer, participer. Et si chacun pouvait se dire, en 2010, à l'occasion de 50 ans de l'indépendance, comment puis-je contribuer à l'effort collectif pour bâtir un pays plus beau qu'avant, pour amener ce pays à la grandeur, comme le dit notre hymne national. Et là, ce serait un début de solution.
Merci beaucoup, Maître Mbouillou, d'avoir répondu à notre invitation. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous disons surtout merci à tous les auditeurs de Radio Okapi pour votre participation active à cette émission Parole aux auditeurs.
Merci.
Allô? 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 Il ne répond pas?
Demain, nous avons un autre rendez-vous avec votre émission 100% interactive et demain, Parole aux auditeurs va s'intéresser au milieu plutôt universitaire avec la décision du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire concernant la politisation des milieux universitaires. Question, quelle lecture faites-vous de cette mesure? Vous pouvez réagir dès à présent en nous écrivant à l'adresse internet pa@radiocapi.net. Radio Capi s'écrit avec des O. Merci beaucoup à toute l'équipe Parole aux auditeurs pour la réalisation de cette émission. Il s'agit de Titine Poutou, de Pierrot Elameji, d'Augustin Ingala, Nicole Ngaka et la mise en onde était assurée par Guy Manzangou. Merci beaucoup et bonne journée.